Tourne encore de Salomé Leclerc.
Oui, une chanson qui fait partie de la très belle bande originale du film Sur la terre comme au ciel. C'est le plus récent film de Nathalie Saint-Pierre qui est au bout du fil. Bonjour Nathalie.
Bonjour Hélène.
Sur la terre comme au ciel, donc, est votre troisième long métrage après Ma voisine danse le ska paré en 2003 et Catimini en 2012 qui nous avait révélé Émilie Bière. Et puis là, ben, une autre révélation, donc, cette fois c'est Lou Thompson qui tient le film sur ses épaules. Est-ce que vous seriez prête à dire ça?
Absolument. Elle est très bien entourée avec Edith Cochrane et d'autres comédiennes aussi qui sont, que les gens vont découvrir. Je pense entre autres à Edith Dandeneau, mais Lou est de toutes les scènes et oui, est la révélation du film.
Quel visage, d'ailleurs, c'est elle qui, bon, qu'on voit sur les affiches de votre film. Sur la terre comme au ciel, donc, vous l'avez co-écrit avec Marika Lumeau, qui est une comédienne bien connue, l'autrice aussi des balados Devenir Margot et Devenir Roger. Que raconte votre film? C'est quoi le propos de Sur la terre comme au ciel?
Ben, c'est le récit d'une émancipation, parce que ben l'histoire, donc, c'est deux sœurs, Clara et Sarah, qui ont vécu toute leur vie dans une communauté religieuse d'obédience protestante, ben, chrétienne en tout cas, et qui ont vécu coupées du monde avec toutes sortes d'idées sur ce monde plein qui est l'incarnation du mal, somme toute. Et du jour au lendemain, la sœur aînée disparaît. Et on comprend donc qu'elle s'est sauvée, là. Elle n'a pas été kidnappée. Et sa jeune sœur, qui jusque-là était parfaitement heureuse dans sa communauté, découvre finalement la solitude. Parce que jusqu'à ce moment-là, elle était tout le temps avec sa sœur, qui est sa meilleure amie. Puis on les voit aussi au début du film, qu'elle vivait des transgressions, puis ce sont quand même des adolescentes. Mais là, du jour au lendemain, puisque la sœur aînée a rejeté la communauté, ben prononcer son nom est interdit et là, on lui demande l'impossible, finalement, c'est de faire comme si sa sœur n'avait jamais existé.
Impossible, en effet. La sœur aînée qui est incarnée par Philomène Bilodeau. Et Nathalie, est-ce que c'est vrai que le film est inspiré d'une histoire réelle que vous a rapportée Marika Lumeau?
Oui, c'est-à-dire que les prémices, le prétexte du film, la situation initiale est survenue au sein de sa famille élargie. Avant, en entrevue, j'en parlais pas trop parce que je voulais réserver, mais elle l'a quand même dit, là, c'est-à-dire que ça arrivait, un de ses cousins a quitté la vie séculaire, notre société, donc il y a une vingtaine d'années, et est parti dans une communauté comme celle qu'on voit au début du film, et 18 ans ou 20 ans plus tard, une de ses filles, sa fille aînée, est débarquée à Montréal, elle n'était jamais sortie de sa communauté. Et la famille, donc, a découvert cette petite cousine. Et ça a énormément touché, marqué Marika, qui était à ce moment-là aussi, qui étudiait à l'INIS, donc pour faire une formation de scénariste. Alors là, je pense, on est en 2012 probablement à ce moment-là. Mm-hmm. Et elle a commencé, c'est là où Marika a commencé à écrire le film.
Et puis, quand vous avez été en contact avec cette histoire, tout de suite, vous avez voulu embarquer, vous avez voulu en faire un film?
Oui, ben moi aussi, au début, je devais être que la réalisatrice et la productrice, parce que le projet est en cours d'écriture. Et moi, tout de suite, j'ai vu toutes les potentialités cinématographiques, c'est-à-dire filmer quelqu'un qui découvre la ville pour la première fois puis qui découvre notre monde, puis qui a un regard neuf sur notre monde, un regard critique aussi.
Vous avez même comparé le personnage de Lou Thompson, dis-je bien, à un extraterrestre qui arrive en quelque part qu'elle ne connaît pas.
Oui, absolument, parce que puis moi, l'attrait aussi, c'est de filmer une adolescente, mais pas une adolescente contemporaine, là, qui est pas connectée avec son téléphone, puis qui est pas... Alors, donc, elle est vraiment avide de découvrir, c'est-à-dire que, c'est ça, elle voit tout pour la première fois, alors j'y voyais... Ça m'excitait beaucoup comme réalisatrice, puis ensuite, creuser le sujet, j'ai vu aussi... ça me touchait de toutes sortes de façons, j'ai lu et j'ai vu beaucoup de témoignages de survivants, d'enfants qui sont nés dans ce genre de communauté et s'en extraire, c'est le projet d'une vie, là, évidemment.
C'est ça, je me demandais si vous aviez mené un travail d'enquêteuse où vous avez fait des entrevues auprès de jeunes qui ont fui des comités, des communautés religieuses ou des sectes pour mieux comprendre leur réalité et faire votre film.
J'ai pas rencontré de jeunes. J'ai vu beaucoup, tu sais, maintenant Internet nous donne accès à tellement de témoignages. Et j'ai lu aussi, comme ici, on a une chercheuse, une professeure à l'Université de Sherbrooke, c'est Lorraine Desrochers,
ouais,
qui a consacré sa vie à étudier les impacts et toutes les problématiques des enfants nés en milieu sectaire. Et donc, j'ai lu ses travaux avec beaucoup d'attention, parce que ce qui était important pour moi, c'était de rendre ce personnage-là, c'est-à-dire que son évolution soit crédible et conséquente avec qu'est-ce qu'on a observé, parce que c'est ça, souvent, c'est quand il y a comme quatre grandes phases à la sortie d'une secte, c'est-à-dire la première fois, quand les gens se sauvent, c'est souvent, justement, ils se sauvent, c'est souvent une évasion, ça se fait dans l'urgence, dans la clandestinité, puis quand ils arrivent en ville, ils arrivent avec toute leur... leur endoctrinement, leur bagage aussi, avant de s'en départir. Puis ensuite, il y a une phase, une prise de conscience de l'endoctrinement. Et ça, c'est une phase qui peut être très, très douloureuse. Alors, bref, ouais, ces travaux à Lorraine Desrochers sont vraiment, ont été très importants pour moi, pour me faire comprendre davantage, c'est ça, les différentes étapes.
Mm-hmm. Parce qu'on les voit justement, ces différentes étapes, et on est pleine de compassion pour Lou Thompson, parce qu'elle, elle aime beaucoup sa sœur Sarah, donc qui veut se libérer de ce joug, si je peux dire. Mais
ouais,
sa mère qui est complètement... aux prises, là, qui est complètement, endoctrinée dans cette communauté religieuse-là. Mais le personnage de Clara, donc incarné par Lou Thompson, aime aussi sa mère. Donc, elle est comme prise entre les deux mondes.
Oui, c'est ça, le grand drame aussi. Le film parle de la quête de sens, hein, parce que c'est ça, dans la communauté, c'était simple. Dieu était la réponse à tout. Penser par soi-même, c'est vertigineux.
Uh-huh.
Puis laisser la place au doute puis au questionnement, c'est aussi faire face à l'angoisse puis au vide. Alors, la jeune Clara rencontre des gens qui, dans notre monde, qui est pas simple puis qui est pas... qui peut être très cruelle. Elle découvre la solitude. Elle découvre aussi des gens qui usent toutes sortes de béquilles pour fuir la réalité qui est des fois trop difficile pour eux.
Et Nathalie Saint-Pierre, est-ce que vous diriez que votre film fait en quelque sorte l'apologie du doute?
Ça dit, moi, ce qui me guidait beaucoup, c'est ça, c'est une phrase de Voltaire qui disait « Le doute est un état mental éminemment inconfortable, mais les certitudes sont ridicules.
» Ouais.
Et c'est ça, le doute, oui, c'est ça, c'est inconfortable. Et on le voit, on est beaucoup en quête de réponses toutes faites. T'sais, on a envie de s'accrocher à des credos très simples, mais au moins, après ça, on n'a plus à s'en préoccuper.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, je dis ça parce que pendant que j'écrivais, entre autres, j'étais abasourdie de voir que Donald Trump allait être élu, malgré tout ce qu'il pouvait dire, malgré toutes ses frasques.
Ça, c'est... mais en 2016, là, autour de 2016?
Oui, c'est ça. Et après ça, j'écrivais, puis j'en revenais pas de voir une si grande proportion de républicains qui, là, tout à coup, l'ont élevé mm-hmm. comme un gourou. Tu sais, c'est-à-dire, on sent que il pourrait faire ou dire, c'est ça, faire à peu près n'importe quoi. Et les gens le voient comme leur réponse, leur salut.
C'est
se
vrai.
Sont sentis tellement méprisés. Alors, ça m'a beaucoup troublée. C'est-à-dire que j'ai réalisé que l'endoctrinement, je le savais, là, mais on dirait que de le voir en temps réel chez nos voisins, c'est ça, ça glace le sang, puis ça recommence. Et alors c'est ça, oui, le doute est a pris. Mais comme créateur, on est tout le temps face au doute, là, c'est sain, mais mon Dieu, c'est ça, c'est pas confortable. Alors oui, c'est ça, c'est un hommage au doute.
C'est pas confortable, mais en même temps, c'est peut-être une clé pour avancer, parce
oui,
que c'est
oui.
vrai qu'on peut être porté quelquefois à rester dans ce qu'on appelle les chambres d'écho, là, on se conforte dans ce qu'on pense, puis c'est pas nécessairement sain. Et Nathalie, comment vous avez trouvé ou découvert Lou Thompson, l'interprète de Clara?
Bien, par un long processus d'audition. Moi, l'audition, c'est une étape que j'aime énormément, c'est-à-dire donc solliciter toutes les agences en ville qui ont des jeunes comédiennes dans leur... c'est ça qui représente de jeunes comédiennes. Alors, j'en ai rencontré soit virtuellement, par Zoom, ou il y en a certaines, celles qui étaient complètement inconnues. Je leur demandais de se filmer d'abord elles-mêmes. Je leur envoyais les scènes d'audition, mais en tout et pour tout, donc j'ai rencontré 200 jeunes filles et ça a l'air d'être un scénario de film de Walt Disney, là, mais ce n'est qu'à la toute dernière journée de mon processus. Donc vraiment, je pense qu'après Lou, j'en ai rencontré 3 autres, c'était prévu. Mais bref, c'est ça, le tout dernier dimanche de ce long, long processus, Lou Thompson est arrivé, puis avec un niveau d'intériorité, de préparation qui était, c'était vertigineux. C'est vertigineux. J'avais déjà repéré 14 jeunes filles qui étaient très prometteuses, mais avec qui je me disais, bon, ben c'est ça, là, je vais vérifier, puis oui, ça serait possible. Mais je n'avais pas encore eu de réel coup de cœur. Tandis que Lou, c'était entre autres la scène où la jeune fille se regarde pour la première fois dans le miroir. Avec Lou, c'était vivant, éloquent, bouleversant.
Et elle a aussi une belle chimie avec tous les personnages, mais notamment avec sa tante, Louise, qui est le contraire de sa mère. Louise, qui vit librement à Montréal et qui a un penchant pour la bouteille, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bien, Louise vit librement.
Incarnée par Edith Cochrane.
Oui, Edith Cochrane, mais on découvre finalement qu'à sa façon, elle est elle aussi enfermée.
C'est vrai.
Enfermée dans son passé. Puis par des solutions qu'elle a trouvées qui sont aussi...
La fuite.
Drastiques. Oui, elle aussi, c'est une fuite. Sa sœur a fui dans une communauté, puis elle s'est enterrée vivante, comme elle le dit à un moment donné. Mais son personnage, est beaucoup plus... Et plus dans
éclaté.
Le plaisir, puis plus éclaté, ouais. Effectivement. Mais elle aussi, elle a, comme je dirais, sa prison intérieure. Mais les deux femmes, donc, se rencontrent, la jeune Clara et Louise. Et Louise, au début, aide beaucoup Clara en lui permettant, puis en la provoquant de se poser des questions. Mais ensuite, Clara aide Louise aussi. Fait que c'est ça, c'est un film de famille sur deux générations et où la jeune fille et sa tante, finalement, avaient besoin l'une de l'autre et s'aident l'une l'autre.
Oui.
C'est ça, c'est assez tendre.
Il y a de l'entraide et c'est très touchant. Et pour revenir à Lou Thompson ou aux enfants en général, parce que vous aviez aussi dirigé Émilie Bière et d'autres enfants dans le film Catimini.
Oui.
Votre film Catimini. Est-ce qu'il y a des défis, des difficultés particulières quand vous aviez à diriger un enfant ou un adolescent?
Bien, on dit souvent que la sélection des acteurs, c'est le casting, le processus de casting, c'est à peu près 70% de la direction d'acteurs. Avec des enfants, c'est beaucoup plus important, c'est-à-dire, je dis ça, il faut choisir le bon enfant pour le rôle et aussi la grande, mais pas difficulté, mais il faut avoir l'acuité d'engager un enfant qui a envie de jouer.
Oui.
Parce que quand on est enfant, quand on est dans une agence à 7 ans, c'est pas tout à fait notre décision, ou en tout cas, c'est pas une décision éclairée. Et dans le processus de casting, c'est souvent ça, c'est de voir si l'enfant qui est là a vraiment envie de jouer, s'il est contraint, ou bien si ses motivations sont... qui veut être à la télévision. Tandis que, comme pour parler de la petite Émilie Bière, Émilie avait un appétit de raconter des histoires. Elle était fascinée par le processus comment ça fonctionne la caméra, comment on fait un raccord. Puis elle avait 6 ans, là, c'était assez inouï. Fait qu'Émilie était dans le plaisir. Alors, diriger des enfants, moi, j'engage jamais de coach, d'acteur. C'est j'établis une relation, puis on joue. Émilie, à 6 ans, savait pas complètement qu'est-ce que son personnage vivait, parce que le but, c'est de... c'est ça, tu veux pas traumatiser l'enfant, tu sais, son rôle était assez difficile, fait que c'est de trouver des moyens détournés pour que l'émotion surgisse, mais des fois... Non, c'est ça, ça prend toutes sortes de stratégies, mais on dirige pas un enfant comme on dirige un adulte, évidemment, parce qu'on n'est pas dans des discussions de psychologie de personnages, etc. Tandis que Lou, à 16 ans, a une telle maturité. C'est ça, c'est tout à coup, avec Lou, c'est un travail de collaboration plus égalitaire. Je disais, j'ai pas eu à faire preuve de stratégie. Mm-hmm. C'était vraiment, là, je parlais à une comédienne avec peu d'expérience, mais une telle compréhension de ce que c'est.
Vous semblez...
Il y a un personnage que... Oui, que ça a été...
Non, allez-y. Je m'excuse. Reprenez ce que vous avez dit.
Je m'adressais à quelqu'un qui avait peu d'expérience, mais qui avait une telle compréhension de ce que c'est donner vie à un personnage que j'avais pas l'impression que c'est ça. Mon travail était le même avec Lou que ça pouvait être avec une comédienne émérite comme Edith Cochrane.
Et vous dites que vous vouliez montrer Montréal sous un jour nouveau en filmant des quartiers et des endroits qu'on voit moins souvent. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Ah, on vous a perdu. On reprend la conversation avec Nathalie Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous avez...
Oui, les joies du téléphone.
Oui, oui, ça arrive, et les joies du direct. Je ne sais pas si vous avez entendu ma plus récente question concernant Montréal, le Montréal que vous vouliez montrer, qui n'est pas nécessairement celui qu'on voit dans différents films. C'est important pour vous de montrer Montréal sous un jour nouveau?
Bien, pour que les gens qui connaissent bien la ville, donc, partage le même enthousiasme et émerveillement que le personnage de Clara. Donc, de dire, hey, mon Dieu, c'est donc bien beau, finalement, Montréal, où plusieurs personnes me disent, ah, je sais même pas c'est où, là, cet escalier majestueux avec les gratte-ciels derrière.
Vous avez tourné où?
Ah, ben, je le dis pas. partez à la découverte de votre ville.
Oui.
Mais il y a des lieux aussi qui sont connus. Mais
c'est vrai qu'on reconnaît quand même.
Un peu différemment. Mm-hmm. Parce que, évidemment, Clara est une touriste dans la ville. Mais mon but, c'était peut-être tourner un peu différemment des lieux qu'on connaît très bien et de montrer d'autres qu'on connaît moins. Je me suis beaucoup intéressée aussi à l'art qu'on trouve sur nos murs, donc les murales, etc. Puis on découvre donc des œuvres en même temps qu'elle. Ça participe à montrer comme la diversité des points de vue, puis la richesse et la beauté de la ville.
En tout cas, on se pose pas de questions parce qu'on la sent, l'âme de Montréal, dans votre film, que vous avez tourné en pleine pandémie.
Oui, c'est ça. Alors ça, je suis très contente que vous me dites ça, là, qu'on sent l'âme. Parce que quand on a commencé à tourner, c'était en août 2021 et la ville était déserte.
Ah oui. Les gens étaient en dedans, confinés.
Mais en dedans, ou au chalet, ou pas à Montréal. Et on a dépensé beaucoup de sous pour la rendre plus habitée. Mais il y avait quand même, moi, j'avais tout le temps en tête qu'elle débarquait avec énormément de la foule sur la rue Sainte-Catherine. Et là, ben la foule, il n'y en avait pas. Puis la rue Sainte-Catherine était en rénovation, donc c'est assez terrible. Mais on a tourné... L'été suivant, 2022, on a tourné une journée et là, la vie était redevenue un peu plus normale pour rendre un peu là, ce choc-là de la foule sur la rue, puis des sons, etc. Alors, je suis très contente.
Alors, il faut voir le film qui est maintenant à l'affiche depuis vendredi dernier. Je l'ai beaucoup aimé, votre film « Sur la terre comme au ciel » de Nathalie Saint-Pierre, et j'invite les auditeurs et auditrices à le découvrir. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à l'avoir aimé. Les critiques sont en général très, très bonnes. Vous avez aussi remporté des prix au Festival du film canadien de Dieppe, des prix aussi en Suède, et pas les moindres, des prix meilleur film, meilleure interprétation.
Oui, non, je suis ravie. Et puis, on avait quand même peu de salles. Le film est présenté dans peu de salles et on est dans le top des 10 meilleurs box-office là, de la semaine. Alors, je suis très contente. La réaction des gens est très bonne. Et moi, je suis tout le temps émue quand les lumières s'allument, les gens me regardent, nous applaudissent, un grand sourire, les yeux pleins d'eau, c'est vraiment ce qu'on veut, là, c'est des grandes émotions au cinéma.
Bravo, c'est une réussite et vous m'avez fait aussi plaisir avec la bande originale du film. Quand j'ai entendu cette chanson, ça m'a ramené à une certaine époque, celle de, pas cette chanson, cette pièce instrumentale de Philip Glass. D'ailleurs, on va se laisser
oui,
avec Islands.
Ben oui.
Merci beaucoup Nathalie Saint-Pierre et puis une bonne continuation.
Merci beaucoup Hélène.
Au plaisir.
Au plaisir.